6h40 sur France Culture.
Le journal des idées, Jacques Munier.
Les mots sans les choses, c'est l'objet de ce journal des idées, Jacques. Oui, parce qu'en cette période de campagne électorale, la bataille des idées peut se réduire à une pauvre querelle de mots.
Oui, c'est le sens de la mise en garde adressée par Frédéric Worms dans Libération. Les formules et les rengaines sont concoctées en amont par des conseillers en communication qui savent bien quels détournements il faut opérer, quels mots-clés, quelles expressions piégées il faut utiliser. À défaut d'idées, le braconnage sémantique peut produire ses effets répercutés à l'infini par la chambre d'écho des médias et des réseaux sociaux. Cécile Alduy et Stéphane Vanisch s'étaient employés à démasquer la stratégie du Front National à cet égard. Dans Marine Le Pen prise au mot, publié au Seuil, il rappelait les propos de Bruno Gollnisch. Les batailles politiques sont des batailles sémantiques. Celui qui impose à l'autre son vocabulaire lui impose ses valeurs, sa dialectique et l'amène sur son terrain à livrer un combat inégal. Aujourd'hui, le détournement de vocables du répertoire républicain, comme la laïcité ou dernièrement de formules historiques comme la France libre illustrent cette manipulation des mots dans la rhétorique frontiste. Frédéric Worms dénonce quant à lui l'usage de l'expression « tyrannie des minorités » dans l'argumentaire de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de l'inversion de la célèbre formule de Tocqueville, la tyrannie de la majorité, où celui-ci voit le danger qui menace la démocratie. Parler de tyrannie des minorités, ce n'est pas seulement contradictoire avec la démocratie, c'est rechercher un double effet pervers pour la démocratie, souhaiter implicitement la tyrannie de la majorité et rejeter le principe démocratique qui consiste à protéger les minorités, les figer en identité et justifier les discriminations. Dans un livre édifiant publié sous le titre « Les mots sans les choses », l'anthropologue Éric Chauvier avait mis à nu ces détournements sémantiques de la novlangue des politiques, grâce à quoi il se paye de mots à peu de frais, en étendant l'empire de l'aliénation tout en prétendant défendre et soutenir la démocratie comme le Kudjat porte l'aveugle dans une forêt en feu.
Conception peut-être plus apaisée de la langue dans son dernier numéro, la revue Hermès se concentre sur l'importance des langues romanes dans le monde, Jacques.
Oui, 1 milliard de locuteurs quand même, et l'intercompréhension naturelle entre eux, une force géopolitique dont le British Council avait pris la pleine mesure, alors même qu'on pouvait redouter que la mondialisation n'étende l'empire de la langue anglaise. Selon une étude réalisée sur cette question, c'est le contraire qui devrait se produire. La mondialisation entraînerait une extension du plurilinguisme. Dans ce contexte, l'espagnol et le français tirent leur marron du feu. Langue romane, combien de divisions? Les linguistes font le point et Thierry Pacot revient sur la belle notion de langue maternelle. Hannah Arendt, installée aux États-Unis, écrit et donc pense en anglais, mais reconnaît que rien ne remplace la langue maternelle. En allemand, dit-elle, je connais un grand nombre de poèmes par cœur.
En parlant de langue allemande, c'est Paul Celan qui a fait ce pari d'écrire en allemand et contre cette langue, Jacques.
Oui, un pari impossible. La langue maternelle était aussi pour lui celle des bourreaux, de sa propre mère, assassinée d'une balle dans la tête dans un camp de Transnistrie en Roumanie. Deux vers rimés contiennent la déflagration. Et tu tolères encore, comme autrefois à la maison, la douce, l'allemande, la rime amère. Und jetzt auf Deutsch. Und dudelst du, Mutter, wie einst, ach, daheim. Den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim.
Traduction.
C'est, vous voyez que ça peut devenir une langue maternelle, l'allemand. La revue Europe donc consacre au poète qui chante après Auschwitz un dossier substantiel où il est notamment question de sa vie à Paris lors de la remise d'un prix à Brême. Celui-ci déclarait « Accessible, proche et sauvegardé au milieu de tant de pertes, ne demeura que ceci, la langue ». Mais elle dut alors traverser son propre manque de réponse, dut traverser un mutisme effroyable, traverser les 1000 ténèbres d'un discours porteur de mort. Toute la poésie de Paul Celan est résumée dans cette insurmontable contradiction. John Jackson se demande s'il aurait pu écrire en français, lui qui traduisit tant de poètes français, et il recommande d'ailleurs deux de ses chefs-d'œuvre, « Le bateau ivre » et « La jeune Parc ». Martine Broda et Jean-Pierre Lefebvre, ses meilleurs et plus constants traducteurs, signent également leur contribution, ce dernier suggérant un jazz avec Paul Celan dans la foulée du tango de la mort qui inspira les Noirs de l'aube dans Todesfugue. Et Denis Thouars interroge la politique du poète qui a tant fait parler les philosophes, de Gadamer à Derrida. C'est d'ailleurs le sujet d'un livre qu'il publie au Seuil et qui tente d'apporter une réponse à la question posée par Hölderlin. Pourquoi des poètes en temps de détresse ?
question à la réponse assez évidente, il me semble, Jacques. Qu'en pensez-vous?
Mais oui, en général, c'est ce qui se produit, oui. C'est d'entendre détresse qu'on les entend.
Merci beaucoup, Jacques Meunier, pour ce journal des idées. Et à lundi.